Bonjour à tous les amis, bienvenue dans votre émission Sortez sur Radio Campus. Bonjour à Julien et Chloé.
Bonne année!
Bonjour Alexandre.
Bon, eh bien non, ce n'est pas même une rediffusion ou je sais pas quoi, mais bon.
J'avais envie. On revient de vacances.
Bonne année.
En tout cas, chers amis, nous sommes bien le 30 décembre et il est 17h. Émission aujourd'hui qui va être sur le sujet des jeux vidéo, en réponse en quelque sorte à notre première émission sur les jeux vidéo, où il nous restait beaucoup de choses à dire, n'est-il pas, les amis?
Tout à fait, oui.
N'est-il pas?
Fallait que je le place. Les résolutions de cette année, c'est par les classes, quoi.
Ouais, tu vois.
Je m'entraîne.
Langage soutenu et tout.
Exactement.
Ah là là.
Certes, j'entends. Alors, bien, on est parti. Hein. Première question. Votre meilleure fin de jeu vidéo?
Alors, Chloé.
Comment ça assume pas? J'adore le regard envers moi. Il n'y a pas beaucoup. Enfin, je joue pas à beaucoup de jeux qu'on puisse finir. La plupart des jeux auxquels je joue, c'est des jeux un peu sans fin où à chaque fois que tu finis les premières parties, t'as d'autres trucs qui se débloquent.
Il y a réellement des jeux sans fin? Ça existe? Genre, enfin, question.
Ouais. T'as les jeux qui ont un mode aventure, forcément, t'as une fin à un moment. Mais les jeux qui sont vraiment libres, par exemple, on parlait de Minecraft la dernière fois, t'as pas de fin.
Il y a Minecraft, c'est vrai.
T'as... Avec les Sims, par exemple, tu peux
les
pas.
Les Sims, t'as pas de fin.
Ah oui.
Enfin, après, en plus, t'as des jeux où t'as des modes aventure. Tu peux faire le mode aventure, par exemple, sur GTA. Mais une fois que tu l'as terminé, tu peux jouer à l'infini. Sur FIFA, t'as un mode aventure, entre guillemets, mais après, tu peux jouer à l'infini. Donc, t'as des jeux qui ont des modes aventure, mais en même temps, une fois qu'ils sont finis, ils peuvent toujours être intéressants à jouer. Mmh. Donc, t'as des fins, oui et non, en fait. Alors que t'as certains jeux, une fois que t'as fini le jeu, t'as plus rien à faire, quoi. Par exemple, je sais pas, un Zelda, une fois que tu l'as terminé, à part le dernier, peut-être, où tu peux te balader, mais sinon les autres, t'as fini ton Zelda, t'as fini, quoi. Tu peux te promener un peu, mais c'est plus intéressant, en fait.
Et d'ailleurs, le dernier Zelda, tu t'as joué?
J'ai pas rejoué depuis, pardon, je suis désolé, j'ai pas fait mes devoirs. Non, j'ai pas trop rejoué depuis, mais ouais, c'est vrai, faudrait que je m'y mette et que je continue. Non, j'ai pas rejoué depuis.
Moi, j'ai eu l'occasion de voir un petit jouer, d'aller chez lui et tout. C'est vraiment grandiose.
T'as vu? Ouais, du coup, t'as vu les graphismes et
ouais,
tout.
Ouais, c'est trop bien.
Ouais, c'est sympa. Hein.
Alors, pour les auditeurs, on parle de Zelda Breath of Wild, hein, qu'on précise.
Parce que
vous dites Zelda le
dernier. En effet, pardon.
Dis bonjour à Quentin, d'ailleurs, au passage. Je me fermais.
Big up à Quentin.
Et on embrasse Quentin.
Bon, alors, retour à cette question. Alors, Chloé, du coup, la fin du jeu vidéo.
On va dire un jeu que j'aime beaucoup, même si on revient sur ce que je disais tout à l'heure où il n'y a pas vraiment de fin, donc The Binding of Isaac, vu qu'en plus il y a les préquels et les séquelles. C'est-à-dire que l'histoire est très belle, et en fait ça finit sur le meurtre du gamin, hein, sans spoiler personne. C'est très glauque ce jeu, mais il est très très bien, et en fait tu peux continuer à jouer parce que tu débloques des trucs. Mais c'est l'histoire en gros qui se termine quand t'as fini le gros du morceau du jeu. Et je trouve très belle parce que tu comprends en fait l'histoire du personnage Isaac à la fin de cette grosse partie. Bon, après t'as jamais fini le jeu parce que c'est impossible à finir, mais pour moi c'est une très jolie fin, même si ça reste très glauque.
Ok, très bien.
J'ai l'impression que t'as pas compris.
Non, mais c'est cool.
C'est le genre de jeu où faut pouvoir jouer pour pouvoir un peu comprendre ce que je dis. C'est pour ça que je voulais pas trop m'étaler, parce que tout le monde ne connaît pas ou n'a jamais joué à The Binding of Isaac. Et du coup, ça peut bloquer un peu la compréhension de ce que je dis.
Après, ouais. Et puis,
ouais,
je voulais rebondir, mais je savais pas trop. Bon, voilà, je m'arrête.
En vrai, ouais, c'est vrai.
Non, mais en plus, souvent, tu peux jouer à des jeux et tu vas pas forcément jusqu'à la fin aussi, parce que ça peut prendre du temps et tout.
Ouais.
Et puis, t'as des jeux où les fins sont vraiment compliquées. Donc, du coup, t'arrives pas forcément à la fin. Moi, je repensais à certains jeux que plus ou moins les seuls jeux que j'ai réussi à vraiment finir, c'est souvent les Pokémon.
Ouais.
Parce que ça se termine assez facilement, l'histoire est pas trop compliquée et tout. Et c'est des jeux dans lesquels t'accroches bien, donc ouais, j'aime bien finir Pokémon, ça c'est sympa.
Ouais.
Mais sinon, ouais, c'est rare que je finisse vraiment des jeux. Si, un Uncharted, je crois, que j'ai fini une fois, que j'avais eu sur la PS4, c'est un jeu d'aventure, un peu à la Tomb Raider, où t'explores, t'as des méchants, tu dois trouver un trésor et tout, genre. Les graphismes sont sympas aussi, donc c'est un bon jeu. Donc celui-là aussi, je l'ai fini, mais sinon, c'est vrai que c'est rare que je termine un jeu. Ouais, c'est vrai, avec Sully.
Sully, c'est un grand moment aussi.
Ok, très bien.
Donc voilà, on a fait à peu près le tour, je crois.
Ouais, carrément. Donc en fait, vous êtes en train de me dire qu'en tant qu'admirateur des jeux vidéo, vous n'avez jamais fini un jeu, quoi.
Si, certains.
Ah,
mais c'est que la plupart des jeux, maintenant, il n'y a plus de vraie fin, en fait. Tu finis un peu, comme disait Julien, le mode aventure, le mode histoire. Mais sachant que tu peux continuer à y jouer, tu vois pas... Il n'y a pas de vraie fin où tu te dis, bon, voilà, le jeu est fini, j'ai plus à y rejouer. Et comme Pokémon, bon, ok, tu finis la ligue, mais après, tu peux continuer à jouer, de découvrir, d'avoir tous les Pokémon. C'est pas une vraie fin non plus. C'est que t'as fini l'histoire, mais c'est après... pas de fin.
Ouais, voilà, donc pour le coup, le mode aventure est pas forcément une fin en soi au jeu. Mm-mm.
Bah, un peu quand même, dans le sens où moi, quand je finis l'aventure, après, le fait de marcher en connaissant déjà la fin du jeu n'est plus très intéressant.
Après,
à
ouais,
mes
voilà,
yeux.
Ça dépend des jeux aussi. T'as des jeux, une fois que t'as fini, bah, pour le coup, ça a plus d'intérêt. Mais maintenant, ça existe de moins en moins parce que bah, les éditeurs font en sorte de faire des jeux où tu peux toujours y jouer, même si t'as fini le mode aventure, mmh. notamment avec le multijoueur, qui rapporte quelque chose en plus. Parce que un mode aventure dans un jeu, ça dure en moyenne 20-30 heures maximum. Sauf dans certains jeux, c'est beaucoup plus, mais en gros, en moyenne. Bah, si ton jeu il a que 20 ou 30 heures de durée de vie et qu'après tu peux plus y jouer, bah acheter 50 ou 70 Crap. Balles le jeu qui a 20 ou 30 heures de durée de vie, bah ça fait chier quoi. Mmh. Donc du coup ils font en sorte que les jeux se détachent un peu de ce mode aventure et que tu puisses faire plein de trucs autour. Dans souvent c'est des mondes ouverts où tu puisses vraiment avoir, t'as aussi plein de quêtes secondaires qui font pas partie de l'histoire principale mais qui te font faire des petites aventures aussi. Donc voilà, ils se diversifient comme ça aussi pour rajouter du temps de vie et du temps de jeu.
Ouais, du coup, t'as de plus en plus de jeux où tu les finis pas vraiment, tu vois la fin arriver, tu dis bon, bah j'ai fait tout ce que j'avais à faire et envie de faire, et du coup, tu t'arrêtes à aller 10% de la fin parce que tu sais comment la fin va arriver, tu sais ce qui va se passer, tu comprends le truc, mais t'as fait tout ce qui toi t'intéressait.
Okay. Et puis en plus, t'es même plus guidé comme avant sur certains jeux, vraiment guidé que sur l'histoire principale. Des fois, tu t'en rends même plus compte si tu fais l'histoire principale, des quêtes annexes ou quoi. Donc,
Et tu te perds, et des fois, t'as des listes de quêtes, t'es là, mais.
Sur le côté droit de l'écran, t'as 8 km de quêtes, tu sais plus ce que tu dois faire.
Donc j'en ai pour à peu près 80 heures pour faire 2 quêtes. Allez!
Vous trouvez généralement, ce que tu as dit, 20-30 heures de jeu réel pour 70€ ou quoi que ce soit. Est-ce que vous trouvez que c'est assez?
Bah, pour le coup, forcément. Quand on fait une comparaison, c'est assez compliqué. C'est pour ça justement qu'ils essayent de se détacher le plus possible de ce mode aventure et d'élargir les choses, soit en allongeant le mode histoire, mais tu peux pas l'allonger trop non plus parce qu'au bout d'un moment, il faut que ton histoire elle tienne la route aussi et qu'elle reste intéressante. Donc c'est pour ça que tu vas avoir tout ce développement de petites histoires autour en fait. Quand tu vas te promener par exemple, tu vas rencontrer un personnage dans le jeu, tu vas lui parler et puis il va te proposer de faire une autre petite histoire et tout pour un peu diversifier le jeu et pour rajouter du temps de jeu. Je sais que tu as aussi le mode en ligne du coup qui permet de rajouter forcément du temps de jeu. Tu découvres le jeu en solo et puis après tu as peut-être envie d'aller jouer en multijoueur avec tes potes ou quoi. Ça va sans doute être d'autres modes de jeu un peu adaptés qui rallongent la durée de vie. Donc forcément c'est un jeu qui dure que 20 ou 30 heures, c'est assez compliqué. Bah, ça vaut pas le coup pour le coup parce que ouais, c'est vraiment cher pour ça. Mais ouais, s'ils peuvent rallonger la durée de jeu, c'est mieux. Ouais.
C'est vrai que le mode multijoueur en ligne ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui en fait dure toute ta life si t'as envie.
Bah, tu comptes pas les heures en fait.
Ouais, tu comptes pas
et
du
même
tout les heures.
Souvent les jeux ne comptabilisent pas du tout le temps que tu as passé dessus en multijoueur. Et je trouve ça dommage parce que ça pourrait être intéressant pour faire tes propres statistiques. Mais non, mais c'est toujours intéressant de voir si tu joues plus avec les autres.
J'ai l'impression que les jeux, t'as plus ces statistiques-là sur PC, quoique en fait sur console aussi tu les as. Je me contredis tout seul. Mais
c'est beau,
en vrai, si t'as pas mal de jeux où t'as les statistiques, mais c'est vrai que pas tous. Et ça peut être dommage. Après, tu te rends compte. Mais quand t'as beaucoup joué, t'es content quand même de te dire putain, rends-toi compte, ce jeu-là, j'ai quand même joué 1500 heures et tout.
Ouais, mais ça peut avoir l'effet inverse et tu dire putain, pendant 1500
ouais,
heures,
oui,
j'ai rien fait d'autre.
Non, mais les deux, forcément, les deux. Mais après, tu t'en rends compte quand tu te divertis et tout, quand tu passes tant d'heures sur le jeu, tu te rends bien compte que voilà. Mais tu peux être content aussi d'avoir ton temps de jeu, tu te dis putain, quand même. Ah là là, je suis content, j'ai joué autant et tout.
Alors, question maintenant, parce que vous avez parlé un peu du mode multijoueur, et j'ai l'impression que de plus en plus, les nouveaux jeux qui sortent, eh bien, il y a l'abolition de ce qu'on connaissait, nous tous, à l'époque, tout ça, les écrans partagés, écrans scindés, qui fait qu'on peut jouer avec son pote à côté, hors ligne, et que le mode multijoueur est enclenché pour de belles et longues heures de rigolade entre amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, par exemple, ça m'énerve, en fait.
Après, l'écran scindé, c'est forcément pas idéal parce que tu te retrouves avec deux écrans sur une télé, donc c'est un peu compliqué.
Ça avait son charme.
Donc,
ça avait son charme.
C'est une des raisons pour lesquelles je pense que ça disparaît de plus en plus. C'est pour ça que des fois, je pense des parents qui comprennent pas non plus que les enfants, ils se retrouvent pas pour jouer, mais qu'en fait, ils jouent des gens ensemble de chez eux. Mmh. Et limite, ça dépend des jeux, encore une fois. Mais limite, parfois, c'est mieux parce que du coup, t'es chez toi, t'as tout ton confort, t'as toute ta télé et tout pour toi tout seul. Alors que si tu vas chez ton pote, t'es obligé de les couper en quatre. Tu vois pas trop ce qui se passe et tout.
Toi, donc, tu trouves du coup que...
Bah, ça dépend en fait des jeux, je pense. Mais j'essaie de justifier un peu le fait que ça existe de moins en moins. Et tu avais aussi posé une question par rapport au développement du multijoueur. Donc forcément, c'est intéressant, on a dit, pour allonger la durée de vie des jeux. Et en plus, dernièrement, on a vu l'arrivée de Fortnite, qui a brassé des millions de joueurs et puis des dizaines de millions de dollars. Donc forcément, toutes les entreprises et tous les géants du jeu vidéo se rendent compte du potentiel du multijoueur, parce que les gens sont contents de jouer chez eux tout seul et tout, mais souvent, tu as envie de partager ça avec tes amis. Tu as aussi beaucoup de modes aventure qui se font aussi à plusieurs. Qui était plus obligé de le faire tout seul, donc tout ça c'est un partage que tu peux faire avec tes potes, et souvent t'as envie de faire ça, et puis voilà, d'un point de vue lucratif c'est intéressant, donc je pense que c'est pour ça aussi que ça se développe beaucoup. Après c'est vrai que c'est dommage de pas pouvoir jouer, t'as des jeux où t'es obligé de te passer la manette et de faire une partie chacun, ça peut être dommage, voilà. Après, mais ça dépend encore une fois des jeux, tu vois.
Mais tu penses pas que c'est aussi à des fins, enfin qu'il y ait plus de personnes qui vont acheter la plateforme, enfin par exemple Formula One est un jeu où avant sur PS2 machin on pouvait jouer en écran scindé et pas de problème. Maintenant Xbox One, dernier Formula One, on n'a plus le droit. En fait, jamais mon pote il veut jouer avec moi, il faut qu'il achète aussi la PS4, enfin ou la Xbox ou machin.
Après quand t'allais jouer chez ton pote au jeu, tu le trouvais cool, tu l'achetais aussi. Donc je sais pas si ça change vraiment quelque chose à ce niveau-là.
Ah ouais, ok.
Enfin, en vrai, je sais pas, j'essaie de mettre des propositions, honnêtement je sais pas trop. C'est vrai que sur certains jeux comme ça, ça peut être dommage quoi. Et puis c'est pas facile non plus de ramener deux consoles, d'avoir deux télés dans une pièce et tout, forcément. Mais t'as ce côté convivial qui est plus compliqué.
Moi je pense que c'est pour qu'on les paye encore plus.
Peut y avoir de ça, franchement. Je sais, honnêtement,
C'est comme sur la PS5, alors là bon, je fais un peu des flous tout ça, mais Chloé, tu nous disais sur la PS5, il y a plus de...
Mais ça n'a rien à voir, c'est qu'il y aura plus de lecteurs CD, on y reviendra peut-être après.
Et donc plus...
Bah, ce sera que des jeux dématérialisés. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui sera jeu d'occasion, tout ça, faudra complètement oublier, mais on en reviendra peut-être après. Juste, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a un grand fossé entre vous deux, parce que je pense qu'il y a une génération de jeux vidéo, je parle en jeux vidéo, qui a
alors,
sauté.
Alors, papy. Ah non, c'est pas ça, pardon.
Pas du tout. C'est-à-dire
que... Qu'est-ce que tu veux dire par là?
C'est que nous deux, avec Alexandre, on a plus vécu à cette période où pratiquement tous les jeux, on pouvait y jouer avec nos amis chez nous, et c'est comme ça qu'on se retrouvait, que c'était convivial, et il n'y avait aucun intérêt à jouer chacun de son côté, même au même jeu. De ce que je peux voir, quand je vois les Mario Kart, les machins, on s'éclatait tous à se retrouver. Et c'est pour ça que ça avait un vrai charme de se dire, bah, en fait, tu regardais sur l'écran de l'autre ce qui se passait, des fois tu perdais de vue, et c'est ça qui était très drôle. Il y a ce côté où maintenant ça se démocratise, où bah, tout le monde reste de plus en plus enfermé, et c'est pour ça que tout ce qui crée les jeux vidéo et les consoles, ils s'adaptent à ça en fait. C'est pas eux qui décident de plus faire d'écran splitté ou autre, c'est parce qu'ils voient que bah, les gens n'ont plus envie de se retrouver chez l'un ou chez l'autre. Alors que moi, je me souviens de mes meilleurs souvenirs à se retrouver à 4, à jouer à Mario Kart sur la Wii, à ne rien voir du tout, parce que c'était encore des vieilles télés toutes petites.
Ouais, bah oui.
Et on avait nos meilleurs fous rires là-dessus, alors que toi, je pense que
après,
tu l'as moins connu, en fait. Tu n'as pas connu
sans doute moins, j'imagine, mais après, c'est toujours possible. Sur Mario Kart, tu peux toujours faire l'écran scindé. Tu as toujours ce principe sur DS et maintenant qui existe sur Switch.
À part Nintendo, ils ne le font plus.
Oui, ça se fait moins. C'est
Nintendo,
vrai que ça se fait
eux,
moins.
Ils continuent leur truc parce que Nintendo, c'est convivial.
Ouais,
et
c'est
et
la politique, c'est vraiment le jeu de famille. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, la console de salon pour que les parents, les enfants jouent ensemble et tout. Donc,
alors que moi, je me souviens de copains sur... Où ils jouaient à des jeux, ouais, comme tu disais, écran scindé tout le temps. Bon, nous, ça ne nous intéressait pas forcément, on les regardait de loin, parce que des jeux de foot, des jeux de voiture, bon, c'était pas de notre âge quand on était au collège-lycée. Mais c'était leur meilleur jeu. Alors que maintenant, bah, quand je vois des personnes qui sont en train de jouer en ligne avec d'autres personnes, bah ouais, c'est rigolo, ouais, t'es en ligne. Mais t'avais ce côté où tu pouvais embêter la personne à côté de toi, tu le poussais, tu touchais tous les boutons de sa manette. Pour moi, on perd ce côté convivial avec l'écran splitté, malheureusement.
Ben, c'est vrai, carrément. C'est vrai, t'as raison.
C'est beaucoup plus convivial. Alors ouais, là, on peut jouer avec plein de monde, on peut découvrir plein de monde en ligne, on peut se faire plein de potes, il n'y a aucun problème avec ça, c'est vachement bien. Mais pour moi, ce côté, ça va manquer, l'écran splitté. Pour moi, on perd vraiment du convivial avec les personnes que tu connais.
Parce que
Pour moi, je suis complètement d'accord avec Alexandre, on en parlait tout à l'heure aussi, c'est pour vendre plus de consoles. Parce que t'as pas le jeu, tu peux pas jouer avec ton pote.
Ouais, c'est possible. Mais tu crois... il y a vraiment tant de jeux que ça, parce que moi je voyais les jeux Nintendo qu'allons jouer à plusieurs et tout ça, des jeux hors Nintendo que tu jouais en écran partagé, donc tu parlais d'un jeu de voiture tout à l'heure, il y en avait tant que ça des jeux qui maintenant proposent plus cette option?
Pour moi la plupart des jeux que je me souviens sur... alors j'ai pas eu beaucoup de consoles, mais j'avais des amis qui les avaient, et la plupart des jeux se jouaient complètement. Il y avait toujours un mode où tu pouvais pas jouer en ligne, malheureusement, parce que c'était pas démocratisé à cette époque-là, mais t'avais toujours un mode pour jouer à deux ou plus. Bah souvent c'est deux, hein, malheureusement, parce qu'un écran à quatre, c'est chaud. Mais c'est, t'avais toujours un mode pour jouer à deux sur la même console.
Ok, ouais.
Et que bah maintenant, il n'y a plus du tout. Ça a été évincé par ce côté en ligne, malheureusement.
C'est vrai que là-dessus, de ce côté-là, c'est vrai que c'est dommage. Ouais.
Mais c'est vrai que peut-être les jeux qui ont vocation à jouer ensemble, machin, le gardent. Peut-être c'est ça aussi, ouais, sur DS
bah,
ou des trucs
maintenant
comme ça.
Avant, ça devait être presque automatique. Maintenant, ça dépend beaucoup plus de la politique, du coup, je suppose, du fabricant. Mais justement, on parlait de Nintendo qui ont vraiment cette politique-là, et même dans toute leur pub et tout ça. C'est vraiment, ça vise vraiment les enfants les plus jeunes parce que c'est des jeux assez colorés, plus simples à comprendre, sans vraiment de violence, etc. Et qui ont envie de partager ça avec toute la famille, qui créent des consoles assez ergonomiques, assez faciles à prendre en main et tout ça, pour vraiment bah, plaire au plus grand nombre, et que ça soit aussi ce côté de « je joue occasionnellement, j'ai pas l'habitude, je suis pas forcément très bon parce que j'ai pas l'habitude d'y jouer, mais je peux quand même prendre mon plaisir, etc. » parce que bah, voilà, c'est assez intuitif et tout ça. Côté qu'ont peut-être perdu certaines consoles à vouloir se tourner vers peut-être des gens qui ont plus l'habitude de jouer aussi, il y a peut-être de ça aussi. De se dire, bah voilà, on oriente plus les choses sur des gens qui vont jouer un peu plus, qui vont vouloir peut-être développer un niveau un peu plus élevé dans les jeux. C'est peut-être tourné autour de ça aussi, je sais pas trop.
En tout cas, ce qui est très intéressant par rapport, enfin, je voulais rebondir sur ce que tu avais dit tout à l'heure, quand on joue en ligne, tout ça, j'ai quand même un plaisir beaucoup plus important maintenant à jouer en ligne qu'en hors ligne, dans le sens où même quand t'es face à des gens où je sais pas, tu dois juste les tuer ou je sais pas quoi. Il y a un truc qui fait que tu n'es plus face à l'intelligence en fait, artificielle, ouais. Et tu t'es face à des vrais gens. Et ça, c'est quand même vachement kiffant.
Ouais,
et
puis je pense, sur les premières heures de jeu, tu t'en fiches, tu vois, de jouer en ligne ou hors ligne, je pense. Ouais. Même tu préfères jouer hors ligne parce que tu connais pas trop le jeu et tout, ouais, tu préfères découvrir. Mais c'est vrai que quand tu commences à jouer beaucoup à un jeu, souvent l'intelligence artificielle devient presque... trop facile, tu vois, le jeu devient un peu trop facile.
Ah bah c'est de la compète, ça devient clairement puis, de la compète.
Ouais,
en fait,
ça devient de la compète.
D'aller t'affronter aux autres.
Et même en restant d'un côté assez amateur et vraiment pour le plaisir, même s'il y a forcément ce côté de rivalité, les ordinateurs que tu vas affronter, les bots, ce qu'on appelle des bots, tu finis par connaître leur façon de jouer et tout ça, et tu trouves plus ça intéressant, tu préfères te confronter à des vraies personnes, donc oui, pour prouver à quel point t'es fort ou pas, et puis même pour trouver un autre plaisir de jeu, en fait, je pense que ça vient un peu avec le temps. À force de jouer à un jeu, tu te rends compte que, ouais...
Bah moi, je trouve que, tu vois, c'est un peu un point négatif de la part des développeurs, parce qu'il y a ce côté où, du coup, ils en font moins, et pour en revenir au prix où on parlait plus ou moins tout à l'heure qu'on a évoqué, je trouve ça un peu pas malsain, mais je trouve ça pas cool pour les joueurs, c'est-à-dire que le prix des jeux est de plus en plus cher, avec de moins en moins de contenu de la part des développeurs. Alors oui, le jeu est très bien et tout fait, mais il se dirige directement vers du multijoueur. Donc c'est aux joueurs de faire leur vie, aux joueurs de faire leur truc, aux joueurs de s'affronter. Et il n'y a plus grand-chose à matière derrière. Et je trouve ça un peu déplorable. C'est pour ça aussi que l'écran splitté, je trouvais ça très bien. Parce que c'était du coup aux développeurs de devoir pouvoir gérer dans l'ergonomie du jeu. Du coup, comment ça se passe quand tu joues à plusieurs sur un seul truc, alors que maintenant, vu que tout est en ligne, on laisse que des modérateurs faire leur truc, ça corrige les bugs, et il n'y a plus personne derrière.
Oui. Mais alors, assez intéressant, qu'est-ce qui se cache derrière le prix des jeux? Vous savez, il y a quoi?
Beaucoup de choses. Ouais. On parlait...
La licence,
ouais,
déjà
la licence, tu payes forcément. Si tu achètes un jeu Nintendo, tu vas payer la marque, entre guillemets,
ouais,
par rapport à un jeu indé ou à des plus petits studios, un jeu indépendant.
Et ça, c'est cher ou déjà ou pas, ça prend une grosse part?
Déjà, en plus, ça dépend souvent, ça dépend de là où tu l'achètes. Si tu achètes sur console, les jeux vont être beaucoup plus chers que, par exemple, sur PC. Sur PC, ils font souvent les prix moins chers parce que les gens ont l'habitude d'acheter des jeux beaucoup moins chers, dans le sens où tu as plein de plateformes qui permettent d'acheter des jeux moins chers et d'occasion, que tu peux faire plus ou moins sur PC.
Peut-être créateur Radio Campus.
Ouais, voilà, je suis pas sûr de ça, je suis pas sûr de l'info.
Ouais, on pourra tester un jour, c'est pas sympa. Un petit peu créateur Radio Campus.
Et ils se rendent compte aussi qu'avec les jeux indépendants, justement, qui sont gratuits ou assez peu chers, les joueurs ont l'habitude d'acheter ce genre de jeu. Et donc, si une franchise sort un jeu à 70 balles sur PC, personne va vouloir l'acheter. Ouais. Quoi. Donc, ils sont obligés de baisser leur prix, alors que sur console, si tous les jeux, même si tous les jeux se vendaient 100€, t'as pas le choix en fait. Tu peux pas faire autrement, tu peux pas te dire non mais je vais prendre un petit jeu indépendant ou quoi parce qu'il y en a vraiment beaucoup moins. Donc du coup t'as pas le choix et t'es obligé de te soumettre au prix du marché quoi. T'as vraiment pas le choix à ce niveau-là. Mais sinon qu'est-ce qui se cache derrière? Déjà tous les gens qui travaillent dessus.
Ouais, parce que par contre ça devient de plus en plus développé rien qu'au niveau Des graphismes.
Ouais, des graphismes.
Les graphistes,
de l'expérience
que...
de jeu.
Au niveau des mathématiques, quoi.
En place, quoi. Et puis après, quand t'as un jeu, donc déjà, forcément, pour qu'il soit aussi beau, il y a forcément du travail derrière. T'as tous les doublages aussi, tous les sons, toutes les voix. On n'y
pense
pas forcément.
Ouais, de plus en plus, parce qu'avant, il n'y avait pas, il y avait juste un texte écrit en dessous, forcément, bah. Rémunérer tous les doubleurs.
Ouais, par exemple, je crois que c'est Red Dead Redemption, le 2, qui est sorti il y a quelques mois maintenant, qui a demandé, mais c'était phénoménal, plusieurs centaines d'acteurs qui sont venus faire des doublages, énormément de travail autour du son, énormément de travail aussi sur certains jeux, par exemple Ubisoft qui développe les... Oh, j'oublie à chaque fois, le jeu où t'es un assassin...
Assassin's Creed,
voilà, c'est
simplement.
Ça. Bien joué. T'as aussi un côté historique, donc t'as beaucoup de travail autour de ça,
recherches.
Forcément. Il y en a un qui se déroulait pendant la Révolution française, t'en avais en Égypte, enfin t'as beaucoup de travail autour de ça.
Les joueurs sont ultra, ultra pointilleux sur ce genre de trucs, et ce que j'ai remarqué sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a la moindre faute sur un truc historique comme ça, sur la Révolution française. Ils se plantent, par exemple, sur... Ils disent le 23 janvier alors que c'était le 24. Ah bah là, ils s'en prennent plein la tronche. Ils sont obligés de tout remodifier parce que les joueurs, ils lâchent pas la grappe. Donc ils sont obligés d'être ultra minutieux.
Ouais, tout est décortiqué et tout, forcément.
J'étais pour me renseigner pour notre émission, enfin trouver des questions, tout ça. Je suis tombé sur Assassin's Creed. Et en fait, ils ont mis 2 ans chez Ubisoft pour reconstruire et refaire la cathédrale Notre-Dame.
Ouais.
Dans le dernier. Enfin, c'est peut-être pas le dernier, mais...
Il y a quelques années maintenant. Il commence à avoir quelques années.
Celui qui se passe à Paris.
Ouais.
Et enfin, c'est quand même 2 ans, quoi, pour la remettre et tout. Donc, ok. Et donc, du coup, il y a quoi d'autre? C'est tout, on a fait le tour.
C'est la plateforme sur laquelle ça va être joué. Parce qu'un jeu DS coûtera moins cher qu'un jeu PC ou même qu'un jeu Switch. Voilà, parce que si t'achètes un vieux jeu, ce sera forcément moins cher.
Oui,
ouais,
et
c'est
même
sûr.
Maintenant, il y a encore des jeux 3DS qui sortent. Bah, ils sortent à beaucoup moins cher que lorsque la 3DS est sortie, parce qu'il n'y a plus la hype autour de cette console.
Ouais, beaucoup moins de monde joue sur cette console et tout, donc forcément, ils sont obligés de baisser un peu leur prix. Et il y a quoi d'autre qui... Bah, forcément, comme dans toutes les entreprises, t'as le budget de publicité aussi qui rentre en compte là-dedans, parce que t'as de plus en plus de communication qui se font aussi même maintenant à la télé. T'en vois dans la rue des pubs pour certains jeux vidéo, donc ça coûte de l'argent. T'as aussi toutes les... Après, tu vas voir... tout ce budget de pub, en fait, qui est représenté aussi. Et puis voilà, je pense que t'as quand même une belle partie qui paye la marque. Mais il faut pas croire que les jeux vidéo, ça se développe comme au tout début, avec une ou deux personnes dans une chambre. C'est des entreprises et des centaines, vraiment des centaines de personnes qui travaillent autour. Comme vraiment au niveau d'un film pour le cinéma ou d'une série pour la télé, où ça prend vraiment beaucoup, beaucoup de place, beaucoup d'argent. Ça coûte vraiment beaucoup d'argent à faire. Pour arriver, parfois on a l'impression aussi de tomber sur des studios indépendants avec des petits jeux qui ont un gameplay assez simple, qui mettent quelques heures à être finis, etc. On a l'impression qu'il y a un mec ou deux derrière, alors qu'en fait tu peux avoir une vraie équipe qui travaille derrière, 5-6 personnes pour développer ce jeu, qui travaille pendant des mois, etc. Et t'arrives à quelque chose qui forcément a pas 50 heures de durée de vie, parce que c'est très compliqué à faire, ça prend beaucoup de temps, faut être très minutieux, très pointilleux sur plein de trucs, enfin, c'est vraiment compliqué à développer. Donc t'as une vraie industrie derrière, et ça... J'ai pas les chiffres, mais si on se renseigne, je pense qu'il y a vraiment des milliers de personnes qui travaillent là-dessus, rien qu'en France, autour du jeu vidéo, et dans le monde, ça doit être des chiffres assez incroyables.
Ouais. Il suffit de voir les crédits, justement, quand les modes histoire, on en revient toujours, à la fin des modes histoire ou machin, il y a toujours des crédits qui défilent.
Grave.
Des fois, ça dure 3 plombes, et tu vois des noms de partout dans le monde, parce que c'est obligé de travailler à droite, à gauche, à ceci, à cela, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes compétences. Et justement, ça aussi que je trouve incroyable, c'est vraiment, comme tu disais, on est à la limite du film et du truc hollywoodien, des fois.
Donc ça coûte combien de faire un jeu vidéo?
J'en sais rien, ça coûte très cher.
Ouais, ça après, c'est vrai.
100 millions?
Oh, peut-être,
3 millions?
Peut-être pas autant, mais...
Des jeux, je pense, on peut arriver...
100 millions, non. 3
non oui, voilà.
Plusieurs millions, c'est sûr, mais...
Il y a certains jeux, on doit y arriver à plusieurs millions.
Oui, ça c'est sûr.
Peut-être pas 100 millions, mais ouais.
Mais c'est pas des blockbusters américains, quoi.
Après, ça dépend forcément de quel jeu tu parles, ouais.
Parce que contrairement au film, il n'y a pas d'endroit, on va pas aller tourner quelque chose à un endroit précis, on n'a pas à réserver un lieu, genre la Tour Eiffel, ça coûte cher de réserver ça pour tourner 10 minutes de trucs. Déjà, ça réduit les frais de tournage, entre autres, parce que c'est fait sur PC.
Chloé, tu voulais rajouter.
Juste, je pense que c'est plus une rémunération du temps passé à faire la chose, plutôt que la chose en tant que telle.
C'est vrai. C'est vrai.
C'est pour ça que ça coûte aussi moins cher qu'un film.
Combien va coûter la PS5?
Ça, c'est une bonne question. Je sais même pas si le prix a été communiqué.
Je sais pas.
Non, je sais pas du tout. Je vais aller regarder en même temps que répondre. Mais la PS5, moi, je suis très sceptique là-dessus.
C'est petit.
C'est
C'est petit.
Comment ça?
Explique-nous,
Chloé. Pourquoi t'es sceptique, Chloé?
Alors, attends, pendant que tu réfléchis, moi j'ai trouvé Ubisoft, donc là je vois qu'apparemment ils ont déjà 370 employés, et je crois qu'en France, tout ce qui est déjà énorme pour développer, on parlait tout à l'heure d'Assassin's Creed et tout ça, voilà, ça représente déjà un bon effectif pour des jeux qui sont très développés, mais c'est pas non plus les jeux qui demandent le plus d'employés. On est vraiment dans le top des jeux qui sont les plus poussés et qui ont besoin de plus de travail, mais c'est pas non plus les plus gros blockbusters, on va dire ça comme ça. Donc, mais déjà, c'est pas mal de jouer à 370 employés. Je pense que dans le monde, ouais, si on cumule un peu tout, moi, je vais avoir du mal à trouver les chiffres, mais on arrive à plusieurs milliers de personnes qui travaillent autour de ça. Donc voilà, c'est assez énorme pour clore ce sujet-là.
Complètement. Chloé, du coup, tu as eu le temps de...
Ouais, bah, au final, ils sont un peu rétractés sur ce qu'ils disaient de base. Il y aura bien un lecteur CD. Hein, pour,
okay.
Parce que ça, je me souviens du grand débat qu'il y avait eu, je crois, c'était à l'E3 justement que ça avait été annoncé.
L'E3 qui est le salon mondial du jeu vidéo à Los Angeles.
Vous référez à notre première émission sur les jeux vidéo dont on en a parlé.
Le podcast sur Radio Campus Tour sur Internet, n'hésitez pas.
Et du coup, ils avaient dit qu'en gros, bah, pour que ce soit plus ergonomique, que ça coûte moins cher et que ce soit plus compact, parce que de base, ils voulaient faire vraiment un truc tout petit pour que ça prenne le moins de place possible. Ils ne voulaient pas faire de lecteur CD. Et du coup, ça avait un peu fait rage parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, le problème, c'est que ne pas avoir de lecteur CD, ça veut dire que des jeux en dématérialisé, ça veut dire que des jeux qu'on peut acheter en ligne. Et en ligne, il n'y a pas de jeux d'occasion. Donc forcément, ça coûte plus cher.
Ouais.
Après, je pense que c'est une habitude à prendre dans le sens où sur PC... T'as que des jeux dématérialisés. Maintenant, ça existe plus, ça existe encore, mais vraiment très peu. Des jeux où tu peux acheter le CD, où tu l'installes sur ton PC et tout. Mais je pense que plus de 90% des gens qui achètent des jeux sur PC les achètent en dématérialisé. Okay. Mais c'est vrai que ça pose ce problème-là. J'ai entendu qu'il y avait, d'un point de vue par rapport à la justice, par rapport à la loi, t'es plus ou moins obligé de pouvoir revendre quelque chose que t'as acheté, je crois.
Bah, la
donc
Steam,
du coup,
y a un... commence à y
du
avoir,
coup,
ouais.
Avec Steam qui est la plus grosse plateforme mondiale qui permet d'acheter des jeux sur Internet, qui est une grande plateforme et donc tu peux acheter tous les jeux que tu veux et qui les regroupe tous, enfin presque. Sur Steam, tu peux acheter ton jeu, tu peux le revendre, enfin tu peux te le faire rembourser au bout de quelques heures de jeu si tu t'es trompé ou si tu l'as testé et t'aimes pas trop ou quoi. Mais si t'as beaucoup joué à un jeu, bah juste tu le gardes en fait, tu peux pas le revendre et ça c'est vraiment limite en termes par rapport à la loi et tout, ça va évoluer. Donc je pense qu'il y a des solutions à trouver, mais en termes de jeux dématérialisés, moi ça me choque pas parce que forcément, en fait c'est une habitude à prendre. Mais après, c'est sûr que pour les plus jeunes, bah c'est mieux de pouvoir aller acheter au magasin ton jeu et puis de l'installer, etc. C'est plus simple.
Déjà.
Tu peux être conseillé aussi.
Parce que là, à part le synopsis que t'as dans Steam, où ils te disent, bah, il se passe ça.
Ouais, mais il y a Internet. Enfin, genre, t'as tous les gameplays.
Ouais, mais c'est moins facile. C'est moins facile d'accès. Et c'est sûr que sur Steam, ça va être comme au dos des comment ça s'appelle des boîtes,
ouais,
des jeux vidéo, où ils vont te faire l'éloge du jeu. Ils vont pas te dire, alors
non,
c'est un jeu assez moyen.
Bien sûr.
On parle pour les plus jeunes là, qui du coup n'auraient pas cette idée en tête et puis qui n'auraient peut-être pas accès à aller sur Internet directement pour jouer. Les plus jeunes, oui, je trouve ça mieux pour eux de pouvoir acheter et de demander conseil à quelqu'un.
Ouais,
il a eu 20 balles à Noël, bah peut-être que pour 20 balles, il veut aller s'acheter un petit jeu d'occasion. Et c'est pour ça que pour moi, le fait de ne plus pouvoir avoir d'occasion, ça ferme un peu les portes aux personnes qui auraient peut-être un peu moins de sous, parce qu'il y en a beaucoup qui achètent leurs jeux uniquement d'occasion.
Ouais, c'est vrai. Et puis on oublie un truc aussi qui est assez important. L'économie qui est autour de ça, parce que si tous les jeux s'achètent sur Internet, bah, par exemple, tous les petits magasins qui vendent des jeux vidéo, bah, ça va être très compliqué pour eux parce que c'est une source de revenus pour eux, ils vivent de ça, donc peut-être qu'ils vont s'orienter vers les consoles, peut-être plus le rétro gaming ou quoi, mais c'est vraiment compliqué pour l'économie, même les grandes surfaces en soi qui peuvent vendre aussi des jeux vidéo, c'est je pense pas négligeable.
Temps, ouais.
Et voilà, ils aiment bien parce qu'ils font une promotion sur un jeu vidéo. Donc du coup, la famille va faire ses courses là-bas en achetant le jeu vidéo en même temps et tout ça. C'est un argument marketing. Mmh. Donc forcément, ça va être compliqué. Ça met un coup à l'économie si bah, voilà, ça n'existe plus en physique.
Bah,
donc,
c'est bien pour les jeunes, mais c'est moyen pour le reste de la famille qui ne savent pas, peut-être, qui ne vont pas aller sur Steam pour acheter le jeu pour le gamin.
Ouais, si tu connais rien, voilà. Forcément.
Moi, je vois mes parents, s'ils devaient m'acheter un truc, ils iraient au magasin, ils n'iraient pas me demander « tu veux quoi sur Steam ?» quoi.
Ouais, forcément. Après, tu peux acheter des cartes cadeaux, des cartes crédit sur Steam, pourquoi
ouais,
pas. Mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. C'est vrai que c'est plus compliqué. Donc, c'était ce côté de conseil que tu perdrais. Quoi.
Tu peux pas prêter ton jeu.
Ouais, voilà.
Ouais, c'est chiant aussi en vrai.
Mais tu peux plus maintenant, je crois. Enfin, à part des jeux un peu plus anciens, Maintenant, en fait, quand, quand vous achetez une boîte d'un jeu vidéo, vous avez le CD que vous mettez dans la PS4, dans la Xbox, peu importe. Et en fait, ce CD contient plus ou moins un code, plus ou moins une clé, qui va permettre de dire à la console « Ok, il a bien acheté le jeu, tu peux le télécharger sur Internet. » Et ça n'existe plus vraiment, comme à l'ancienne sur la DS ou quoi, où tu branches ton jeu et le jeu est directement sur le disque. Et hop, le jeu part. Et donc, tu pouvais te le prêter sans problème.
Ouais, ou maintenant, la PS2, par exemple.
Ouais, ou la PS2. Enfin, les consoles qui commencent à être un peu plus anciennes. Maintenant, les consoles, t'achètes ton truc, tu mets ton CD, tu l'insères et ça télécharge juste. Et puis, bah, je pense que si tu prêtes le CD ou quoi, ça marche pas, quoi.
Mais oui, c'est ça. Même pour être invité d'un jeu vidéo, maintenant, des fois, ils te font un mot de passe. Genre que... la c'est plateforme vrai. Connaît c'est en vrai fait, qu'avant... qui tu es. C'est horrible.
Alors, avant, avec des modes multijoueurs en ligne ou même en local, tu pouvais facilement inviter quelqu'un qui n'avait pas un jeu à jouer à ton jeu et vous pouviez jouer ensemble alors que lui n'avait pas acheté le jeu du tout. Alors que maintenant, je crois que ça ne doit plus être possible, ou alors peut-être que si, mais que quelques minutes pour découvrir le jeu, pour donner envie d'acheter et tout. Donc c'est sûr qu'à ce niveau-là, c'est plus compliqué, c'est moins convivial.
Ouais. Ah ouais.
Bah sur la plupart des consoles que je connais, oui, c'est comme tu dis, hein, si tu n'as pas le jeu, tu ne peux pas jouer. Point. Ouais. Même si ton pote, il l'a, alors que... À l'époque de la DS et même, enfin voilà, Nintendo encore. Hein, après, on se demande pourquoi c'est mon fournisseur préféré. mais quand je vois voilà du Nintendo, Mario Kart encore maintenant, tu ne l'as plus. Et vu que encore une fois, tu peux jouer à côté avec tes amis sur la même console. Et bah même si les personnes l'ont pas ou l'ont pas amené machin, tu peux jouer avec eux. Alors qu'avec la DS, bah voilà, tu te connectais sur la DS de l'autre, il avait pas son jeu, bah tu pouvais jouer quand même.
Ouais, tu faisais des grandes courses à 8 avec tout le monde, même s'il y avait qu'un seul jeu ou quoi. Et puis...
Exactement, alors que maintenant, bah t'as pas le jeu.
Maintenant t'as pas le jeu, tu peux pas jouer, ouais. Donc ça, là, pour le coup, c'est réellement marketing. Ça, là, ouais. y a pas de débat.
Ah, voilà. Mais comme le fait, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, pour moi, et je suis complètement d'accord avec toi, le fait qu'il y ait plus d'écran splitté, c'est pour faire vendre les consoles.
Ouais aussi. Hein.
Parce que ton pote, il vient chez toi, il te voit jouer à un jeu. Enfin, il arrive, tu termines ta partie, il va faire « Oh, c'est trop bien !» Il va tester chez toi, mais il n'aura pas le moyen de jouer avec toi en ligne, de jouer avec toi à côté.
Ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté-là qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, de ce côté-là. Qu'avant, on pouvait, même si on n'avait pas le jeu, jouer ensemble quand même. Mmh. Alors que maintenant, bah, tu peux plus, quoi. Mmh. Ou à part... Ouais, t'as certains jeux gratuits, mais c'est vrai que c'est assez rare. C'est... Ouais, donc c'est vrai que ce côté-là est un peu embêtant, forcément.
Moi, des fois, je vois des potes jouer sur des consoles où ils montrent comment ils jouent à leur jeu. Je me dis, oh, mais j'ai trop envie d'y jouer. Et puis après, je me rends compte que j'ai pas la console. Et je me dis, j'ai grave pas envie de payer 100, 200, 300, allez, jusqu'à 600 balles la console, plus le jeu, juste pour jouer avec eux. Et bah, tu fais tant pis, bah, tu joueras pas un jeu qui te plaît. Et je trouve ça vraiment dommage.
Ouais, bah, c'est ce principe d'exclusivité. On en parlait un peu, je crois, dans la première émission.
Ouais, on en parle complètement.
Où, bah, on va y revenir en deux mots, mais du coup, elle est. Toutes les entreprises, par exemple PlayStation ou alors Xbox, vont essayer d'avoir des jeux en exclusivité pour qu'ils ne sortent que sur leur console et donner envie aux gens de l'acheter. Mais forcément, c'est compliqué d'avoir la Nintendo Switch à 300€, la PS4 à 300€, la Xbox à 400€. Au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Un PC à 1200, enfin, c'est
grave.
C'est pas possible, quoi.
Complètement.
Alors qu'il y a des licences, eux, ils en ont rien à péter parce qu'ils savent très bien, genre les Sims, eux, ils savent très bien que de toute façon, n'importe où ils sont, ils vendront, donc ils sont sur toutes les plateformes.
Donc ils sont partout, ouais.
Ouais.
Mais après, c'est une question. T'as des jeux, par exemple, les Sims, si Nintendo demain allait les voir et leur proposait un très gros chèque pour qu'ils soient que sur Nintendo, bah peut-être qu'ils accepteraient, quoi.
Je sais pas. Je pense qu'ils ont été tellement habitués à être partout.
Mais c'est aussi. C'est aussi comme ça que ça se fait. Les jeux trouvent leur intérêt à être sur toutes les consoles pour toucher le plus de monde possible. S'ils se focalisent sur une seule console, c'est aussi parce qu'il y a un côté financier derrière et puis ils y trouvent leur intérêt, je pense, d'un point de vue surtout financier.
Bah, y a des contrats aussi où ils n'ont pas trop le droit d'aller ailleurs.
Oui, en plus, et puis t'as des éditeurs qui travaillent, qui sont dans la même entreprise, dans les mêmes maisons mères que PlayStation, etc. Donc forcément, ça les oblige et ils travaillent justement juste pour une seule console. Mais forcément qu'un jeu va trouver tout son intérêt s'il peut se développer sur toutes les consoles ou même sur les mobiles. On n'y passe pas forcément, mais par exemple un jeu comme Hearthstone, qui est plus ou moins un jeu de cartes stratégique, bah, il se développe sur PC par exemple, mais il existe aussi sur téléphone, ce qui donne une plus grande part. Beaucoup de gens ont des téléphones, ça permet ça. Fortnite, qui existe sur PC, sur console, maintenant sur téléphone. Ça permet aussi de toucher une audience beaucoup plus large, on s'en rend pas forcément compte.
Ils sont partout.
Dans les villes, dans les campagnes.
Sur les réseaux.
Excusez-nous, pardon.
Big up à Marine.
on l'embrasse. Non,
on l'embrasse pas.
Pas du tout.
Non, non, non.
On va enchaîner, hein.
Une petite musique, peut-être.
Allez, on va. On...
Non, ouais, mais grave, en plus, ouais, ça peut être.
Ça peut être sympa, parce que ça fait une demi-heure qu'on parle, qu'on parle, qu'on parle.
Ouais, ça doit les saouler, les gens.
Désolé.
On va vous mettre de la musique, ça va être cool au moins.
Vive la musique.
Bon, tu nous proposes quoi alors, Chloé ?
Eh bah, ben, toujours des musiques pour rester dans le thème du jeu vidéo, et ce sera une très belle musique, parce que. Donc, une musique de Final Fantasy VII, parce que Final Fantasy, oh. Ils font des musiques incroyables.
C'est vrai.
Jamais le nier.
Ils sont connus pour ça.
Ah ouais, bah. Et celle-là, je la trouve vraiment sublime.
De retour sur le plateau de Sortez sur Radio Campus. Prochaine question.
Juste, je fais mon mea culpa
ah,
avant.
Oui, c'est vrai.
C'est parce
vrai.
Que c'était pas du tout celle-là qui était prévue. Celle-là, elle nous a tous surprises, moi la première. Voilà.
Ça, c'était Rammstein avec ouais, Joe Satriani.
Ça, ils ont été vénères. J'ai
c'était
pas compris.
Un bon gros truc de festival.
Je suis désolée s'il y en a qui ont fait des AVC à cause de moi. Vraiment, je m'excuse.
Encore un mort sur la route.
Vous pouvez envoyer
j'arrête pas
à Radio
quand
Campus.
C'est moi qui mets la musique. Mais c'était pas celle-là. Normalement, c'était une musique très douce avec du piano et du violon. Et bah là, on en est loin. Désolée.
C'était très sympa quand même. Hein.
Oui, enfin, c'était pas prévu. C'était surtout ça.
On a passé quand même un bon moment.
Voilà.
Surpris, mais.
Ça réveille. J'espère que ça vous a réveillé. Vous étiez au taf, vous étiez fatigué. Bah là, vous n'êtes plus. Hein. Voilà. Je te relaisse la parole. Désolée.
Allez, alors, ma question est un peu grande. Concentrez-vous bien.
Ah oui, alors attention, oui. Soyez tous concentrés chez vous.
Prenez enfin, des notes.
Si jamais vous comprenez dès la première fois, je vous tire mon chapeau.
On gagne un truc ?
Non, même pas.
On peut faire une roulade dans le studio.
Bon, ah ouais, trop bien.
Un peu de tenue, baby. Alors, toutes les personnes qui jouent pour la première fois aux jeux vidéo en 2019, c'est-à-dire les gens qui sont jeunes, vraiment, genre ils ont 12 ans, hop, ça y est, ils vont brancher la console, machin, ils vont avoir une expérience des jeux vidéo qui est...
La découverte.
Voilà, de découverte. Et donc, rentrer dans le bain... tiède. Ils n'auront pas la même vision et le même plaisir par rapport à quelqu'un qui aura connu les anciens jeux vidéo. C'était pas la même expérience de jeu. Alors si vous pouvez un petit peu dire comment a évolué l'expérience, le plaisir, le but d'un jeu vidéo, alors est-il le même à l'heure actuelle que par rapport à nos anciens jeux ? En gros, la question pourrait se résumer, l'esprit, enfin, n'a-t-on pas délaissé l'esprit du jeu pour sa beauté ?
il a mis 1 minute 14. Non, j'en sais rien.
C'est relou.
En vrai, ouais.
Pour moi, non. Parce que les gens qui vont découvrir le jeu vidéo, bah, ils vont découvrir comme les gens qui, il y a 20 ans, découvraient un jeu vidéo. Ils sont pas... Ce sera leur premier jeu. Donc pour eux, ce sera forcément une découverte et ce sera forcément un bon moment à passer. Ce sera pas le même type de découverte que les gens qui ont passé tous les types de jeux vidéo. Et bah, qui...
Ça, c'est sûr.
Après, ils se rendent pas compte forcément de l'évolution.
Voilà.
Je repense à une... Je crois que c'était une vidéo de Norman où il arrivait... Non, je crois que c'était Cyprien, qui est un youtubeur, qui est le deuxième youtubeur français et qui arrivait donc, dans un sketch... qui a au moins 5-6 ans, et donc dans son sketch il arrivait devant son petit cousin et lui montrait, regarde, j'ai trouvé mes tout premiers jeux vidéo, je vais te montrer à quoi ça ressemble et tout. Et le gamin, il était en train de jouer à genre je sais plus, mais à GTA ou un truc comme ça, donc vraiment des designs et puis des graphismes très poussés et très réalistes. Et il est là, il dit, ah ouais, ce jeu là il me pique un peu les yeux, c'est vrai que c'est pas très beau, c'est quoi tes jeux à toi? Et lui, il est là avec un Mario 64, il dit, bon bah non, en fait c'est pareil que toi, ça a pas d'importance. Donc vraiment, c'est sûr que c'est pas la même expérience d'un point de vue déjà graphisme. Sans doute d'un point de vue expérience de jeu, c'est pas non plus la même façon de faire des jeux vidéo qu'il y a assez longtemps. Après, c'est deux façons de voir les choses. On se rend compte qu'en ce moment, les enfants découvrent le jeu vidéo avec Fortnite en gros, et puis avec Minecraft, c'est les deux gros jeux. C'est sûr que ça n'a rien à voir avec, si tu l'as découvert il y a très longtemps, avec Mario 64 ou ce genre de jeu. Bah, c'est pas la même expérience, forcément.
Même nous, de notre génération, on n'aura pas la même expérience et la même découverte que les personnes qui ont actuellement 30-40 ans avec leur premier jeu vidéo. Ouais. Et pourtant, on était très heureux et on a l'impression que maintenant, c'est désuet que nous, on a découvert. Alors que pour les personnes qui avaient déjà une vingtaine d'années, quand nous, on joue aux jeux vidéo, pour eux, c'était déjà des révolutions de pouvoir jouer aux Sims, de pouvoir jouer à Age of Empires.
Oui, mais est-ce que, en fait, la question, c'était plutôt, est-ce que le contenu du jeu a été détourné dans le sens où c'était plus réfléchi, plus intéressant quelque part et structuré, enfin avec plus de choses à l'intérieur qui seraient pas liées au graphisme ou à la beauté technologique. Ah,
tu parles
choses.
Vraiment le gameplay, quoi.
Le
vraiment
gameplay,
le,
voilà.
Vraiment l'essence même du jeu, en fait, c'est ça.
Pour moi, on a fait le tour.
Bah après, ouais, on a fait le tour, comme t'en parlais, Alexandre, avant le début de l'émission, je vais te laisser le redire, mais tu nous disais que t'avais vraiment l'impression que les jeux, quand tu y jouais, t'avais beau changer de jeu, c'était plus ou moins la même chose.
Par exemple, Red Dead Redemption ou The Witcher ou des choses comme ça, on change de costume, machin, mais c'est vrai que
God of War, tout ça, ouais, non,
le but est toujours le même. Ce serait une quête à cheval que tu dois imaginer, ou aller chercher Roger à gauche.
Exactement.
Et l'emmener à droite. Et genre, que tu sois un sorcier ou un cow-boy, en fait, c'est pareil, tu changes juste de costume.
Ouais,
de costume.
T'as l'effet un peu graphique qui change, mais l'essence du jeu et vraiment le gameplay, t'as l'impression que c'est la même chose au fur et à mesure. Après. Je pense qu'avant, les jeux étaient aussi beaucoup plus basiques parce que t'avais beaucoup moins de façons de faire. Enfin, t'avais beaucoup moins, d'un point de vue technique, t'étais beaucoup plus réduit. Donc du coup, t'avais des aventures beaucoup plus simples. C'est sûr qu'aujourd'hui, les aventures sont beaucoup plus développées.
Pas le même financement aussi.
En plus, pas le même financement, forcément. Mais c'est sûr que aujourd'hui, ça peut tourner un peu autour. Mais après, t'as des révolutions, je suppose, qui vont arriver au fur et à mesure.
Ouais,
Battle
Fortnite,
Royale.
On s'y attendait pas.
Fortnite qui a créé le système du Battle Royale.
C'est
qui
pas
est...
lui qui l'a créé.
Non, c'est vrai. On considère plus ou moins...
C'est
Minecraft pour toi ? Moi, c'est Minecraft qui a créé ça.
C'est un mode qui a été créé sur Minecraft, mais qui a été démocratisé avec H1Z1.
Oui, Minecraft, quoi. Et donc,
c'est
donc,
quoi
du coup,
Battle Royale,
tu Alors, je t'explique. Tu arrives à un nombre défini de joueurs. Maintenant, c'est en gros 100 personnes sur une map à 100 personnes. Et le but, c'est d'être le dernier en vie.
Oh,
donc, tu vas devoir récupérer tes armes, tout ce que tu as pour te battre. Soit essayer de survivre, soit essayer d'aller faire des kills. Mais le but, c'est d'être le survivant et d'être le top 1, le premier. Donc ça existait à l'époque sur Minecraft, les Hunger Games. Il y a genre maintenant au moins 6 ans que ça existe.
Ouais, au moins.
Et donc 6 ou 8 ans même, et donc là ils étaient pas 100 forcément, mais ils étaient moins, c'était une dizaine, une vingtaine, et puis donc t'avais toute ta map, t'allais chercher les choses et tu devais être le premier en vie. Ça s'est développé, les UHC aussi sur Minecraft.
Ah, les UHC, ouais. Je pense que
aussi.
C'est vraiment ça qui a démocratisé.
Ouais, et puis donc aujourd'hui t'as Fortnite qui l'a remis au goût du jour, où tu spawns sur l'île, tu arrives sur l'île à 100 joueurs, et donc le but encore une fois est d'être le premier en vie avec une zone qui rétrécit pour que tout le monde se trouve et se retrouve et se batte pour être le dernier en vie. Donc ça, c'est un mode de jeu qui a vraiment explosé dans ces dernières années, et maintenant absolument tous les jeux qui sortent t'as un mode Battle Royale, parce que ils se disent, ils veulent un peu surfer sur cette vague, parce que de base Fortnite c'était un jeu de PVE, donc c'est-à-dire de combat mais contre des monstres, et plutôt en solo ou alors en multijoueur, mais surtout contre des monstres. Et donc moi je retiens cette histoire de je sais plus quel streamer qui a fait un doublage, c'est possiblement AlphaCast, je sais plus, mais un streamer français qui a fait des doublages justement pour Fortnite, et au tout début, et donc il discutait un petit peu justement pour ce côté joueur contre monstre, contre zombie, et il discutait avec le développeur et tout en allant faire les doublages. Ils étaient en train de leur dire, ah ouais écoute, on est en train de développer un petit truc de PVP, un battle royale à 100 joueurs. On sait pas trop ce que ça va donner, on n'est pas sûr que ça marche, mais bon, on va le tenter. Et finalement, c'est devenu un phénomène mondial. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent, qui se développent. Donc là, il y a ça qui explose. Peut-être que dans 2 ans, il y aura autre chose. On va peut-être trouver, je sais pas, un truc qui existe déjà depuis longtemps, mais de façon beaucoup plus petite. Et il y aura une explosion, on ne sait pas. Peut-être qu'il y aura une explosion, je sais pas, des... Bah, j'en sais rien en fait, du coup forcément vu que c'est une évolution, mais peut-être que des choses vont exploser, faire évoluer les choses, donc peut-être pour casser cette routine de ces jeux d'aventure, parce que t'as, voilà, ces jeux qui tournent surtout autour de l'aventure, qui peuvent paraître redondants forcément, les images sont belles, tu changes de cadre, mais c'est sûr que le fond même de l'histoire peut sembler être la même chose au bout d'un moment.
Complètement, très bien dit.
J'ai fait un long monologue, j'avoue que je sais même plus qu'est-ce que j'ai dit.
Mais... j'ai écouté que d'une oreille.
Non, mais c'est exactement ça.
C'est bien résumé.
Mais par contre, Battle Royale, ça, c'est stressant comme mode de jeu,
oui,
quand même, non?
Ouais.
Je préfère les équipes, moi.
Bah, il y a des modes Battle Royale par équipe.
Tu peux jouer tout seul, à 2,
5, 10.
À 5, à 10. Des fois, t'as même des
50 contre 50.
Ouais, des 50 contre 50.
Ah, c'est trop bien.
Ça, c'est vraiment rigolo.
C'est drôle. Surtout à voir, parce que ça part en vrai.
Ouais, à voir, c'est marrant, ouais.
Quand t'es dedans, t'es limite perdu parce que tu sais plus qui est qui.
Mais quand tu prends un peu de hauteur et tu vois ça, tu vois que t'as 50 petits bonhommes contre 50 et qui se tirent un peu dessus et tout, c'est vrai que ça, c'est rigolo. T'en as qui essayent de rentrer, de faire des petites percées et tout, ça, c'est vraiment marrant.
Et tu vois des gens qui attaquent les membres de leur équipe parce qu'ils ont pas compris que c'était des membres de leur équipe. Et je trouve ça
fabuleux. Ouais, t'as des trucs rigolos, ouais.
Y a des campeurs.
Ouais, t'as des campeurs forcément qui se cachent et qui attendent qu'on vienne les chercher pour tuer dans le dos et tout.
Bah, non, mais c'est cool.
Mais c'est sûr que c'est des modes de jeu qui sont un peu plus stressant par rapport à des jeux de salon, tu vois, par rapport à un FIFA, par rapport à un Mario,
un
Animal Crossing, tu vois, ça n'a rien à voir.
Zéro stress sur Animal
Crossing.
C'est sûr,
c'est des modes de jeu un peu plus stressants, et puis d'un point de vue limite d'âge, c'est un petit peu plus élevé, je crois Fortnite ça doit être 12 ans, quelque chose comme ça, donc voilà, c'est pour un public un peu plus averti, entre guillemets, mais c'est des jeux à tenter.
Complètement. Aimez-vous les remakes de nos anciens jeux vidéo?
Je pense qu'en termes de remake, il faut être un peu vieux pour savoir ça, donc on va se tourner vers Chloé.
Quel est le sous-entendu?
Oui, c'est vrai, je trouve que c'est une très bonne idée de se tourner vers Chloé.
C'est même plus sous-entendu, là. C'est
si moyen. Ça dépend. Clairement, quand je vois, par exemple, ça dépend vraiment de plein de facteurs. Quand je vois, par exemple, désolé d'avance, comme la première fois, je sais que je vais pas me faire des amis sur ce que je dis et je m'en fous un peu, mais quand je vois le dernier Zelda, Breath of Fire, quoi?
Bim.
Allez, pour moi, on a perdu l'essence du Zelda. Zelda, c'était le petit Link qui était là avec sa petite épée, son petit bouclier et qui ne pouvait faire que d'attaquer et de marcher. Ça s'arrêtait là. Maintenant, il monte à cheval, il construit des ponts, il a des super pouvoirs. Ça, c'est pour moi pas Zelda. Et Breath of Wild a complètement perdu l'essence du Zelda. A contrario, Mario reste Mario. Il a toujours eu ses petits trucs à droite à gauche. Tu sais comment il récupère ses pouvoirs, c'est par hasard, tout est mis en place petit à petit. Ça dépend vraiment du jeu en fait. Zelda, pour moi, ils en font trop, alors qu'à l'inverse, l'autre Zelda qui a été remis au goût du jour, donc Awakening, lui, j'attendais que les fêtes de Noël soient passées et je vais me l'acheter parce que à part les graphismes qui ont été remis au goût du jour et plus mignons, plus machin, ça reste le même avec les premières gimmicks et je trouve ça génial parce que ça va permettre à des jeunes qui n'ont pas pu jouer à Awakening à l'époque de pouvoir y jouer et de découvrir ce que c'est pour moi le vrai Zelda.
Ouais, et puis toi, ça te fait un retour aux sources avec des images beaucoup plus agréables à voir.
C'est ça,
mais
ça
après,
a piqué les yeux.
Après, le fait de cette évolution, et pour toi, ça perd un peu l'essence même du jeu. Est-ce que ça peut pas être intéressant aussi? Ça peut apporter autre chose à la franchise, ça peut la développer, ça peut permettre de toucher un public plus large et puis bah, d'être beaucoup plus en immersion dans le jeu. Est-ce que tu trouves pas que ça peut être aussi un intérêt? Donc,
non.
Forcément, ouais, tu vas perdre cette essence que t'as, mais parce que tu connais le jeu depuis très longtemps et que t'as attaché à la franchise. Mais est-ce que c'est réellement bénéfique ou pas pour la franchise? Moi, je pense que si, peut-être, parce que justement, t'ouvres T'ouvres les choses à beaucoup plus de personnes, tu gardes ce mode aventure qui était très présent à l'époque pour les gens qui vraiment sont attachés à ça. T'as un monde ouvert, il y a beaucoup de gens qui font même plus l'aventure, justement, comme on en parlait tout à l'heure, et qui juste se promènent parce que le monde est magnifique. Justement, t'as vu des images il y a quelques jours, Alexandre.
Est-ce que c'est Zelda? Non.
Bah, je suis désolée, ça permet d'ouvrir.
Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec, les jeux. Et bah, c'est exactement pareil. T'as 15 000 quêtes à remplir, tu vas chercher Roger à gauche et tu fais plus. Zelda, elle n'existe même plus, j'ai l'impression, clairement. Hein. On te parle vaguement d'une princesse au début du jeu. On te parle vaguement d'un méchant au début du jeu. Mais t'as des monstres qui font 15 mètres de haut, c'est des pierres, c'est des machins. Non.
C'est sûr que de ce côté-là, c'est vrai que
c'est
ça évolue.
Zelda, c'est le petit truc où t'as les petits bruitages, t'as les petits joyaux, t'as les petits machins, tu peux casser des pots. Enfin, tout le monde connaît Zelda où tu peux casser ton petit pot et tu te fais courser par des poules. Je trouve ça fascinant. Maintenant, tu montes à cheval. Là, en plus, maintenant, dans celui qui va ressortir, t'as la princesse avec toi. Il est où l'intérêt si t'as déjà la princesse? Tu vas faire quoi?
Ouais, parce que c'est une suite qui reprend la suite de Zelda Breath of the Wild.
Oui, là, moi, je parlais vraiment des remakes. Pas des suites.
C'est sûr que t'as l'intérêt des remakes. C'est vrai qu'on s'est un peu écarté du sujet.
Fallait que je fasse mon coup de gueule, désolé.
C'est peut-être aussi l'émotion qu'on a eue étant enfant, en fait, à jouer. Et toi, c'est ça qui parle aussi un peu, c'est ton cœur de.
Bah, c'est ça. Après, sur la plupart.
Elle est blessée.
Absolument. je l'ai très mal vécu quand j'ai vu ça.
Parce que c'est vrai que cet aspect rétro peut freiner, en fait, des nouveaux joueurs qui, en fait, du coup, n'auront pas le plaisir de jouer à des jeux très intéressants
Comme je dis, c'est pour ça que quand je vois le Awakening qui est ressorti et que je m'empressais d'acheter sûrement ce soir d'ailleurs, je me suis hypée toute seule.
Cadeau de Noël perso.
Absolument.
C'est on se fait plaisir.
C'est que du coup.
Pensez aux étrennes. Pardon.
Si d'ailleurs vous voulez faire des dons, je vais me créer un PayPal. Mais oui, là par contre, c'est bien fait parce que c'est un jeu qui est très vieux. Je crois qu'il est sorti, je devais même pas être née d'ailleurs.
Ah ouais, c'est super vieux. Putain.
Ouais, Awakening, c'est un des premiers.
Oh la vache. Est-ce que le monde était en noir et blanc à l'époque?
Absolument.
Ah oui, d'accord, ouais, donc ça date un temps que les moins de 100 ans ne peuvent pas connaître. D'accord.
Ah, au moins ça, ouais.
Donc,
il est sorti en 93.
Ah ouais, c'est ce que je disais.
Et du coup, ouais, pour moi, par contre, si tu parles de remake pur et dur comme ça et pas de suite, pour moi, ouais, c'est super bien parce que je vois ça, ça va pouvoir permettre aux plus jeunes de connaître le vrai Zelda.
Mais est-ce que s'ils font ça, c'est pas juste pour un intérêt financier? Ça a fonctionné une fois, on va le prendre, on va garder exactement la même chose, on va embellir un peu les choses, puis on va le revendre 50 balles et puis les gens ils vont être contents puis on va se faire de l'argent sans vraiment de soucis, quoi, sans vraiment s'embêter.
Mais ils jouent sur la corde sensible des personnes.
C'est comme les 2 et les 3 au cinéma. En fait,
tu refais les choses, mais t'as une suite dans l'histoire. C'est comme si dans 3 mois, on te disait les bronzés 1, on le refait, mais juste les couleurs. Avant, c'était pas très beau, maintenant on a refait les couleurs, c'est plus joli. Amusez-vous.
Ouais,
ça ils ont fait sur certains films. Hein.
Ouais, mais sur des films très anciens, genre je crois La Belle et la Bête ou des choses comme ça, où ils ont refait, recoloré et tout ça. Mais.
Oui, il y en a eu.
Pour le coup,
je suis complètement d'accord. Il y a juste un intérêt financier derrière de refaire vendre une licence et pour toucher exactement comme ils ont fait avec moi et ce qui a très bien fonctionné, toucher la corde sensible des personnes qui y ont joué et qui du coup se disent ouais, bah maintenant ça va être plus joli, ça va être plus fluide et ça va permettre de pouvoir replonger dedans alors que j'ai plus la console, j'ai plus le jeu de l'époque, machin. Et,
ouais, t'as la nostalgie. Financier.
Ah oui, je me suis fait enfumer, je le vis très bien.
Ouais, je sais, je suis un pigeon, j'ai compris.
Et ce soir, je serai là en plein enfumage, en train de jouer et me dire « Ah, ça coûtait moins cher à l'époque quand même !» Et c'est exactement
enfumage, quand tu pars en fumage. Non, je déconne. Bon, quel youtubeur suivez-vous le plus?
Ah ouais, ça change de sujet. Là, on
ouais,
passe,
parce qu'il est 53-11.
Ouais,
ah ouais, donc faut qu'on se dépêche. Bon, alors, youtubeur. Alors, YouTube, c'est une plateforme de vidéos sur Internet. Non, je pense que tout le monde commence à connaître
quel
maintenant.
Quel streamer? Alors, peut-être j'aurais pu...
Ah, quel streamer aussi?
Je pense qu'on va peut-être se limiter, vu le temps, à YouTube. Et on pourrait peut-être faire un épisode 3 qu'on pousserait plus sur le stream. Parce que je crois que tu avais quelques questions sur le stream qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer.
C'est vrai.
Ah, on peut faire ça. Donc on se limite à YouTube.
Demain 17h.
Non.
Alors,
Julien, j'espère que t'es là.
Pour le coup, je serai absolument pas là.
Mais on peut se remettre là. Et
donc
puis
émission sur les phoques demain.
Parce qu'on adore les phoques.
Bah voilà, tu vas le tenir pendant une heure. Donc pour parler des YouTubeurs vite fait, t'en as vraiment de tous les types. Donc déjà, ça c'est compliqué à définir. T'en as qui font du jeu vidéo, t'en as qui font qui racontent des histoires, t'en as qui font de la musique, t'en as qui tous les domaines. T'as de toute façon des gens qui font des vidéos sur YouTube. Moi aujourd'hui, je suis beaucoup moins de gens qui font des jeux vidéo pour le coup parce que je trouve ça m'intéresse moins. Et puis tous ceux que j'ai pu suivre à l'époque, je pense par exemple à Hypierre qui faisait du Minecraft, aujourd'hui fait plus trop de vidéos, si ce n'est des best-of de live. Il fait ses lives et puis il y a quelqu'un qui récupère l'entièreté du live qui dure 3 heures et il découpe, il fait une vidéo de 15 minutes un peu best-of. Et à part ça, il fait plus vraiment de vidéos. Donc moi, je suis des choses un peu différentes. J'aime bien le grand JD qui fait des explorations, entre autres des explorations urbaines, de l'urbex. Je ferai une chronique bientôt là-dessus. Je vous expliquerai tout ça un mercredi. Mais il fait de l'exploration urbaine.
Big up au grand JD s'il nous écoute.
Sans doute pas dans ces montagnes en Suisse. Mais non, c'est vraiment. J'aime beaucoup ces vidéos parce qu'elles sont très travaillées. Tu découvres des endroits vraiment méconnus qui sont abandonnés. C'est le principe de l'exploration. L'urbex, c'est l'exploration urbaine. Donc tu vas explorer des endroits inconnus et des endroits. Non, pas inconnus, des endroits qui sont abandonnés. Voilà, je trouve mes mots. Et donc, ça, je trouve ça très, très sympa. Et j'aime beaucoup regarder ça parce qu'il fait aussi des petits reportages. Il parle de pas mal de choses. Donc, ça, c'est pas mal. Et dans le même style, il y a Mamie Twink qui fait beaucoup moins d'urbex, mais qui font beaucoup de vidéos assez historiques. Ils aiment beaucoup la Seconde Guerre mondiale. Ils font beaucoup de choses autour de ça. Ils visitent souvent des lieux de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont beaucoup d'histoires qui tournent autour de ça. Donc, c'est vrai que d'un côté purement historique, pour parler de YouTube, parce qu'il faut faire assez vite, ce côté historique, etc., et de découverte, c'est ces deux chaînes-là, moi, que j'aime beaucoup.
Ouais, intéressant.
Alors, moi pour...
Bonsoir, bienvenue.
J'ouvrais mon petit feed YouTube pour voir si j'en oubliais pas, parce que c'est vrai que je suis beaucoup, beaucoup dessus, je suis plus vidéo YouTube que série ou film. Pour moi, incontestablement, celui que je préfère, c'est Mister JD, qui fait des analyses de clips et des analyses de pubs.
Je connais pas du tout.
Avec Mister Connard, ah, c'est un grand moment de... Ah ouais, ouais.
Ah, il a pu.
Ah, c'est un grand moment de franche rigolade. Si vous avez moyen, toutes et tous, franchement, allez voir au moins une vidéo d'eux. Juste, c'est drôle, il n'y a rien d'autre à dire.
Comment il s'appelle ?
Mister JD. Okay. Avec JD en majuscule et
Donc,
Day.
Le grand JD et Mister JD.
Ils
deux
ont
gens
même fait un feat.
Deux gens différents, mais deux personnes apparemment qui travaillent très très bien.
Et ils ont justement fait un feat dans un de leurs trucs, parce qu'il y en a beaucoup qui font...
Trop marrant.
Qui font l'amalgame,
ouais,
entre les deux.
Tu m'étonnes.
Et du coup, en gros, dans un de leurs trucs, ils parlent du fait qu'ils ont reçu une grosse prime, beaucoup d'argent d'une marque qui les sponsorise, puis au final, qui leur envoie un message pour leur dire non, c'est pas. Enfin bref, je vais pas spoiler, c'est très très drôle.
Un quiproquo.
Indéniablement aussi, Squeezie, ça fait du bien de temps en temps.
Ouais, après là, c'est beaucoup plus divertissement et puis rire en termes de divertissement. Moi, j'aime bien Pierre Cross aussi, Benjamin Verica.
De plus en plus de mal, personnellement.
Ah ouais,
mais,
moi, j'aime bien toujours.
Joyka. Enfin, la Redbox, je regarde
Joyka,
beaucoup la Redbox.
C'est très, ouais. Donc, Redbox, c'est une, on va dire, un endroit, un bâtiment où dedans, il y a pas mal de YouTubeurs qui travaillent plus ou moins en collaboration et qui se sont unis pour faire des vidéos de qualité. Et donc, vous retrouvez les chaînes de Mastu, de Amixem, de Joyka, de Neoxy et de Vodka. Et donc, il y en a d'autres aussi qui arrivent au fur et à mesure, qui tournent autour,
ouais.
Mais c'est eux les principaux. En tous les cas, et c'est vrai que Joyka, c'est très sympa. Bah, j'en ai parlé dans certaines chroniques, notamment pour ses vidéos où il parle de choses positives. C'est un gars qui de base faisait beaucoup de musique, qui fait toujours de la musique et des choses vraiment sympas, et qui tourne aussi beaucoup autour des choses positives. Il aime bien apporter des choses vraiment positives autour de ses vidéos, et il parle de plein de sujets. C'est vraiment franc, et ouais, c'est vrai que c'est des vidéos vraiment sympas à regarder pour le coup.
Et toi, Alex ?
Je sais pas.
T'es pas trop YouTube ?
Non. Je suis tombé sur une chaîne que Quentin m'a conseillé d'ailleurs.
Le bon Quentin.
Non mais ouais, on joue beaucoup ensemble tout ça. Et genre c'est Think Interview. Ça n'a rien à voir, mais c'est une chaîne YouTube très intéressante parce que ça traite des problèmes, enfin politiques, économiques, sociaux.
Ouais.
Enfin, très intéressant avec des gens interviewés tout ça.
Donc voilà, là on vous montre déjà en l'espace de 5 minutes que. À trois personnes, on trouve des choses qui n'ont rien à voir sur YouTube, donc il y a
aussi,
vraiment de tout.
Docteur
ouais,
Mosman,
il
y a tout ce qui est tout ce
scientifique,
qui est science, vite fait. Il y a Dans ton corps, qui est très intéressant pour se comprendre et comprendre le corps humain, qui est très intéressant, c'est très rapide, très clair, très concis. Docteur Mosman, du coup, lui c'est pareil, on est sur la science à fond. Et il y en a un autre que j'ai vu aussi.
Après, si on refait un truc sur les streamers, on va peut-être en reparler aussi un peu de YouTube. C'est deux domaines qui tournent un peu autour, on pourra y revenir plus longuement.
Mais c'est pour ça, là, je cite que des personnes qui font pas justement de streaming.
Ouais, vraiment indépendant
et
YouTube.
Et la dernière personne que j'apprécie beaucoup et qui est pour moi l'une des seules francophones à faire ça, c'est Matt se fait des films. Qui fait des parodies de films et que je trouve très drôle.
Très très drôle, ouais.
Ok. Et ben plein de belles choses à découvrir alors. Merci beaucoup, Chloé. Merci, bah,
merci à tous d'être là.
Merci à
merci
toi.
Merci à nous. Merci à vous.
Merci à la vie. Bonne soirée à tous.
Merci à l'intervieweur de cette émission.
Et puis, bah,
c'était un plaisir.
Merci, Alexandre.
Et puis, à très vite pour la troisième émission autour un peu plus du streaming, alors.
Carrément.
Okay.
On se quitte peut-être avec une petite...
Il n'y a pas le temps.
Il n'y a même pas le temps.
Non, non, non.
Dommage.
Et bah, au revoir.
Salut.
Au revoir. Merci à tous.
Radio Campus Tour 99.5
et sur internet radiocampustour.com.